Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
On assiste actuellement à un rapprochement entre le gouvernement de la CAQ et Québec solidaire autour de la protection des locataires aînés. On en parle avec Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Co-porte-parole de Québec solidaire, évidemment. Vous l'appeliez Duplessis, il vous appelait le woke et vous lui avez écrit. Il vous a répondu en vous remerciant pour cette main tendue. Êtes-vous réconcilié, le Duplessis et le woke?
Ben, réconcilié, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que moi, je suis très content. Je suis content qu'on soit capable de travailler avec le gouvernement pour améliorer la situation en matière de logement au Québec. Ça fait des mois que j'en parle. Ça fait des années à Québec solidaire qu'on parle de la crise du logement. Puis la plupart du temps, c'est pour critiquer le gouvernement. C'est pour dire que ça va mal. Et là, pour une fois, les partis travaillent ensemble pour améliorer la situation. Ça arrive pas tous les jours dans un Parlement. Et quand ça arrive, ben, je pense qu'on devrait tous se réjouir. Je pense que si Québec solidaire n'avait pas été là pour mettre la pression puis pour argumenter, je pense pas que le gouvernement serait en train de bouger. Donc moi, je suis fier du travail qu'on a fait. Je remercie le gouvernement d'avoir accepté notre main tendue. Il y a des rencontres prévues dans les prochains jours. Ce n'est pas fait encore, mais le premier ministre aurait pas ouvert la porte là s'il était pas prêt à réellement s'asseoir sérieusement puis discuter avec nous pour qu'on avance en matière de protection des locataires aînés au Québec. Fait que c'est une belle nouvelle. Il y en a pas tous les jours en matière de crise du logement. Fait que je me priverai pas de le souligner.
Ouais, c'est une conviction, c'est sûr, chez vous, puis ouais. Même, je dirais, chez le premier ministre, vous avez pas exactement la même approche, mais en même temps, il y a toujours un peu de stratégie en politique. Est-ce que vous vouliez montrer un côté de vous un peu plus constructif? C'est l'impression que j'ai eue, puis c'est un peu ce que vous venez de dire.
Ben, le projet de loi de ma collègue Christine, on l'a déposé l'année dernière, donc c'était... Et ça fait suite à la bataille qu'on avait menée à Québec solidaire en 2016. Donc, il n'y a pas de grande velléité stratégique là à très court terme. Moi, j'ai toujours dit que la politique que moi j'ai envie de faire, c'est une politique où il y a les deux, où il y a des moments de débats même qui peuvent être frontaux, où on peut assumer des désaccords fondamentaux sur l'avenir du Québec. Il y a aussi des moments où on est davantage en mode collaboration, en mode échange. Parfois, des gens en politique qui disent la politique, c'est juste le conflit. D'autres qui vont dire non, la politique, ça doit être toujours de la collaboration. Moi, j'ai toujours été un homme assez nuancé sur ces questions-là. Je pense
il y a un temps pour chaque chose.
Il y a un temps pour chaque chose, puis je pense qu'une démocratie en santé, c'est une démocratie où il y a les deux. Moi, je voudrais pas d'une démocratie où tout le monde est toujours d'accord sur tout, mais je pense que c'est sain aussi par moment d'être capable de trouver des voies de passage. Puis c'est ce qu'on est en train de faire en matière de logement. Puis j'en suis très fier.
Parlons du fond de l'affaire. C'est pas très compliqué. Il y a trois conditions dans la loi qu'on appelle la loi Françoise David, même si le chef du Parti québécois aime pas ça. mais on y reviendra peut-être. Mais les locataires protégés, il faut qu'il y ait 70 ans ou plus. Faut qu'ils soient restés dans leur logement 10 ans ou plus. Puis il faut qu'il y ait 100 % du revenu admissible là, pour avoir accès au HLM, exactement. Donc là vous voulez baisser l'âge à 65, baisser le temps d'occupation à 5 ans, puis monter à 150 % le revenu pour accéder à un HLM. Vous êtes négociable sur les trois, d'après ce que j'ai compris, les trois aspects.
Nous, on est prêts à mettre de l'eau dans notre vin. C'est l'esprit de la lettre que j'ai écrite au premier ministre il y a deux semaines. En fait, non, la semaine dernière, les journées sont longues ces jours-ci, où je disais, nous, on va faire des compromis là. Mais en ce moment là, dans nos bureaux de circonscription, nous les députés là, il se passe pas un mois sans qu'on reçoive pas un appel d'un aîné qui nous dit, par exemple. Je fais pas beaucoup d'argent dans la vie. Là, on dit, OK, ça, c'est bon. Ça va peut-être vous protéger. Ça fait 12 ans que je suis dans mon logement. Là, on se dit, oh, OK, mais j'ai 69 ans. Et là, on est obligé de dire à cet homme ou à cette femme-là, ben, si vous aviez reçu votre avis d'éviction l'an prochain, ben, vous seriez protégé par la loi Françoise David. votre propriétaire aurait pas le droit de vous évincer, mais là, malheureusement, monsieur, malheureusement, madame, on peut rien faire pour vous. Vous êtes un an trop jeune. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, les gens ont 75 ans, mais ça fait 9 ans qu'ils sont dans leur logement. Imaginez comme député devoir répondre à une femme, je dis une femme parce que ce sont en majorité des femmes, là, de 75 ans ou de 80 ans. Désolé, si vous aviez reçu votre avis d'éviction l'an prochain, ben là, ça ferait 10 ans que vous seriez protégé. Ça nous arrive tout le temps, puis ça fait d'allure, on échappe trop de monde.
Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? L'ensemble de la loi. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de personnes ça touche, ça, les trois critères?
C'est très difficile. D'abord parce qu'il n'y a pas de base de données pour savoir combien il y a d'évictions par année puis qui est visé par ces évictions-là. Hein. Les seules évictions dont on connaît l'existence, c'est celles qui sont contestées face au tribunal administratif du logement. Okay. Et ça, c'est une très faible proportion parce que la plupart des gens et la plupart des aînés, malheureusement, connaissent pas beaucoup leurs droits. Souvent, ont peur d'avoir des représailles. C'est un âge de la vie, là, si vous êtes rendu à 75 ans ou... Vous lancez dans une bataille juridique contre le spéculateur qui vient d'acheter votre bloc appartement, ça vous tente pas, vous avez pas cette énergie-là, parfois vous avez des craintes, donc une très faible proportion d'aînés qui vont contester leur éviction. Donc, c'est pas possible de chiffrer exactement le phénomène, mais sur le terrain, ce que les comités logement et les groupes d'aînés comme la FADOC nous disent, c'est que le nombre d'aînés qui reçoivent des avis d'éviction est en explosion dans les dernières années.
Mais là, on va accroître énormément le bassin de personnes protégées là, avec ces trois critères-là.
C'est l'objectif. C'est l'objectif.
Ouais. Mais est-ce que ça peut pas avoir des effets pervers? C'est-à-dire, là, que, par exemple, il y a une lectrice qui m'écrit aujourd'hui, la loi dont vous parlez à deux tranchants, les propriétaires ne veulent plus louer à des vieux à cause de cette loi. Et si on baisse ça à 65, ça va être encore pire. Ça, c'est une lectrice qui m'écrit, qui est locataire elle-même. Donc, elle sent ça, elle, qui a un effet. Je dis pas que c'est documenté, tout ça, c'est anecdotique, là. Mais on en a parlé, vous et moi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de faire en sorte, de provoquer une sorte de ressac contre les personnes en haut de 65 ans?
C'est une crainte qu'on entend souvent, je la comprends, mais c'est intéressant de constater, je discutais avec ma prédécesseur Françoise David, qui est l'auteur de la première mouture de cette loi-là, et Françoise me disait, Gabriel, en 2016, quand on a commencé à tenter de convaincre les autres partis de protéger les locataires aînés contre les évictions, cet argument-là était déjà utilisé. Cette crainte-là était déjà là. Les gens disaient, ça va décourager les propriétaires de louer à des gens de 69 ans parce qu'ils vont se dire, dans un an, je peux plus évincer cette personne-là. Bon, d'abord, quand on parle au comité logement, quand on parle au groupe d'aînés, là, je vous parle de la FADOC, là, c'est pas une section locale de Québec solidaire, là, c'est un groupe apolitique qui regroupe 500 000 aînés au Québec.
C'est pas le Frappru, là.
C'est pas le Frappru non plus. J'aime beaucoup le Frappru, mais c'est des gens qui sont moins naturellement proches de nous, disons ça comme ça, la FADOC. Ce que les gens de la FADOC nous disent, c'est, nous, là, c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. On voit pas depuis 2016 une augmentation de la discrimination envers les aînés en matière de logement. Malheureusement, l'âgisme existe au Québec. Malheureusement, les aînés sont parfois victimes de certains désavantages, de certaines discriminations, et c'est vrai notamment en matière de logement. Mais l'adoption de la loi Françoise David 1.0 n'a pas fait augmenter cette discrimination-là. Alors, nous, on voit pas pourquoi l'adoption d'une loi Françoise David 2.0 viendrait empirer le phénomène.
C'est une crainte du premier ministre.
C'est une crainte du premier ministre.
Il le formule dans sa lettre.
Et puis on va se rencontrer, puis on va essayer de le rassurer à ce niveau-là. Mais si on va au fond de l'argument, je pense qu'il faut aussi se poser la question, s'il y a de l'âgisme dans notre société, s'il y a une toute petite minorité de propriétaires qui veut pas louer son logement à une personne aînée,
est-ce que c'est
une forme de discrimination, puis il faut se séparer contre cette petite minorité de propriétaires-là. Il faut mieux protéger les aînés. C'est ça particulier de dire...
Mais est-ce que c'est nécessairement de l'âgisme? Est-ce que c'est peut-être la crainte de ne pas pouvoir profiter de sa propriété, dans le fond? Tu sais, je me mets simplement dans la peau et je me fais un peu l'avocat du diable. Les propriétaires, et moi j'en ai connu dans ma vie, c'est vrai que des fois, si tu sais qu'un un locataire peut s'installer là ad vitam aeternam, ben tu te dis jamais je vais pouvoir augmenter le loyer ou refaire l'appartement ou c'est ça, on entend rarement ça, vous, une espèce de d'ouverture quand même au rôle des propriétaires qui sont réduits souvent dans votre discours à uniquement les grands spéculateurs véreux, bon, si je puis caricaturer. Ouais.
Non, tout à fait. Puis je comprends bien votre question, puis je trouve ça important de rassurer les gens sur cette question-là. Il y a beaucoup de choses, par contre, dans votre question. Bon, d'abord, la grande majorité des propriétaires, là, c'est des gens qui veulent avoir un locataire fiable qui va payer leur loyer. Puis les locataires aînés, c'est généralement des locataires tranquilles, avec des revenus stables, parce que c'est des pensions de vieillesse. C'est des gens qui paient rubis sur l'ongle leur loyer à chaque mois. Ils font pas des raves dans leur appartement en haut du duplex. Donc, généralement, c'est des locataires qui sont plutôt appréciés par la majorité des propriétaires au Québec. Le problème qu'on a, c'est qu'on a une minorité, une toute petite minorité, mais qu'il y a beaucoup de logements. En Montréal, là, un logement sur trois est propriété de 0,5% des propriétaires. Donc ça veut dire qu'il y a un tout petit nombre de propriétaires qui possèdent énormément de logements. Et ce sont eux les grands spéculateurs qui souvent vont cibler les aînés pour les évincer. Pourquoi? Parce que si vous avez 75 ans et que vous êtes dans votre logement depuis une dizaine d'années, là, force est à parier que votre loyer, il est resté bas. Et quand vous êtes un spéculateur, c'est quoi votre objectif? C'est augmenter le plus vite les loyers pour que l'immeuble prenne de la valeur et que vous puissiez emprunter à nouveau pour acheter un autre bloc appartement. C'est ce phénomène-là qui fait en sorte que les aînés sont plus ciblés par les spéculateurs et c'est pour ça que c'est justifié de les protéger en particulier, pas parce que c'est pas grave une éviction qui frappe quelqu'un de 25 ans, mais parce que se faire sortir de son logement à 80 ans, c'est pas juste fâcheux, c'est une tragédie, ça peut mener à des problèmes de santé, ça peut mener à l'itinérance. Donc ça, c'est toute la réflexion derrière. Et moi, je pense que c'est possible de continuer à protéger les aînés contre la crise du logement. Et c'est pas un procès des propriétaires occupants qui ont un duplex ou un triplex dans les villes du Québec.
Parlons des relations internationales maintenant, parce qu'il y a une visite aujourd'hui importante. Là, on est au moment où on se parle, on est jeudi après-midi de Gabriel Attal, qui le premier ministre français, qui va débarquer bientôt. Il me semble que les deux chefs souverainistes l'ont un peu échappé d'un dernier jour. Et je m'explique. Il y a Étienne Grandmont, votre collègue de Taschereau, qui a carrément dit, ben nous, on s'attend pas à grand-chose de ce gouvernement-là, de ce premier ministre qui appartient à un gouvernement de droite, WASH. Et donc, on a des liens quand même un peu avec la France, mais c'est pas un gouvernement comme ça qui nous inspire tellement. On dirait que vous avez voulu, vous, dans un point de presse juste après, ça s'est passé hier, remettre un peu la pâte à dents dans le tube en disant, écoutez, là, c'est important quand même la relation avec la France, puis la non-indifférence et la non-ingérence, au moins il faut avoir ça comme chercher comme position. Donc j'ai l'impression que, et c'est mon premier exemple, là, après ça je vais parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je commence par ça, est-ce que vous avez voulu remettre la pâte à dents ou le dentifrice, pour bien parler, dans le tube?
Ben écoutez, je vais être très honnête avec vous. Vous parlez du point de presse que j'ai fait tout de suite après celui de mon collègue Étienne Grandmont. Moi, j'avais pas vu le point de presse d'Étienne avant d'être interpellé par des journalistes dans le hall du Parlement. Donc, c'était pas donc non une volonté de corriger quoi que ce soit.
Okay.
Ça brise un peu le suspense derrière la chose, mais c'est la plate vérité. Par la suite, j'ai pris connaissance des commentaires de mon ami Étienne. Je pense qu'il était un peu surpris par la question, fait des commentaires sur la politique d'Emmanuel Macron. Oui. C'est vrai, là, je veux dire, c'est pas un parti, c'est pas un premier ministre très proche de la famille politique qui est la nôtre à Québec solidaire. On est plus proche de la gauche française.
Vous êtes d'accord avec lui?
Je pense qu'Étienne a fourni la réponse qu'il était capable de fournir comme ça dans un point de presse. Pour ce qui est de Québec solidaire, moi, j'ai eu des questions quelques minutes après.
C'est un peu un faux pas diplomatique, si je puis dire.
Ben, écoutez, là, des points de presse comme ça, c'est à chaque matin, les députés se présentent là, vous savez comment ça marche, ils ont des questions sur 25 sujets, ils font de leur mieux. J'étais en point de presse hier et notre responsable en matière de relations internationales, qui n'est pas Étienne, mais qui est mon collègue Guillaume Clichy-Rivard, a eu des questions ce matin. De notre côté, c'est clair que oui.
C'est pas Solzhenitsyn? Non, parce que M. Grandmonde nous a dit de parler à Sol Zanetti hier, OK.
C'est M. Clichy-Rivard c'est Guillaume qui est notre porte-parole en matière de relations internationales. Et Guillaume, ce matin, a dit grosso modo ce que j'ai dit hier, là, c'est-à-dire, oui, on a des différences sur le plan idéologique, mais dans le cadre d'une visite protocolaire, ce qui est surtout important pour nous d'affirmer, c'est d'abord l'importance historique des liens entre le Québec et la France. C'est des liens qui sont économiques, mais pas seulement. En tant que francophone d'Amérique, c'est une relation qui est extrêmement précieuse. Puis c'est sûr que comme indépendantiste, il y a aussi une dimension supplémentaire à cette relation-là pour nous, dans la mesure où si on veut faire du Québec un pays, puis c'est ce qu'on souhaite à Québec solidaire, ben, il faut prendre soin des relations avec les pays qui seraient susceptibles d'être à l'avant-scène de la reconnaissance d'un Québec pays, et la France est tout en haut de cette liste-là. C'est pour ça que c'est une relation qui est particulièrement importante pour nous.
Diriez-vous, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, que la France devrait jouer un rôle actif, donc soit pas dans la non-ingérence, mais finalement, ça ingère si jamais il y a un oui à un référendum?
Bien sûr, moi, comme indépendantiste, mon souhait personnel, c'est que le mouvement indépendantiste québécois ait le plus d'alliés possible. Mais je m'attends pas à ce qu'un chef de gouvernement vienne trancher ici un débat en disant « moi, je suis dans l'équipe de l'indépendance ». Je pense que c'est pas ça son rôle. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il est au Québec. Le strict minimum pour nous, c'est quoi? C'est la politique historique du non-ingérence, non-indifférence, qui est un peu, quand même déjà, un signal d'ouverture envers la nation québécoise, en voulant dire, c'est pas une nation comme une autre en Amérique du Nord, c'est une nation pour laquelle on a une affection particulière, puis je pense que le destin de la nation québécoise doit intéresser tout particulièrement le gouvernement français à cause des liens historiques qui nous unissent.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Au plaisir.
Ça m'a fait plaisir, M. Robitaille.